proposons la lecture de quelques versets dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 17. Et il sortit portant sa croix et s'en allant au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, car la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'écriture fût accomplie qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements, ils ont jeté le sort sur ma robe. Les soldats donc firent ces choses. Verset 30, quand donc Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Les Juifs donc, afin que les cordes ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôta. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, pas un de ses os ne sera cassé. Et encore une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er. J'ai composé le premier traité au Théophile sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là côté d'eux qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel ?» Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Comme suite à l'œuvre de la rédemption, le Seigneur s'est assis dans le ciel. Il y a une autre raison qui nous est donnée au chapitre 8, comme nous le savons. Il nous est dit, nous avons, verset 1er, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Il est là comme notre souverain sacrificateur. Il y a a deux aspects essentiels dans cette souveraine sacrificature de Christ qui s'est assis dans le ciel. Remarquons bien que c'est lui qui s'est assis. Eh bien, c'est qu'il intercède pour nous. Il est là, portant les saints en figure à travers les types de l'Ancien Testament pour ce qui concerne le souverain sacrificateur, sur son épaule toute puissante et sur son cœur plein d'amour. Nous sommes les objets de ses tendres soins. Il sait de quoi nous sommes faits, que nous sommes poussière et cendre, comme le dit Abraham dans son intercession au chapitre 18 de la Genèse. Et il connaît nos infirmités et il est là pour nous, devant Dieu, toujours vivant, pour nous soutenir. Les infirmités n'ont rien à voir avec le péché. Le péché, c'est le rôle de l'avocat. Mais les infirmités, cela correspond à notre état de faiblesse, aux maladies, au poids des circonstances, au deuil. Et le Seigneur qui est parfaitement homme dans la gloire, c'est l'homme Christ Jésus qui est dans la gloire, intercède pour les siens qui sont marqués par ces infirmités, ces faiblesses, pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur voyage terrestre. Nous n'arriverions pas si nous n'avions pas l'intercession de notre souverain sacrificateur dans la gloire. Et là aussi, il est vu assis. Un autre aspect encore, c'est celui du chapitre 12, où il nous est dit que il est Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. C'est le couronnement de sa vie de foi. Il est entré dans la gloire, et il est là, devant Dieu, ayant achevé la course de la foi. Deuxième aspect du souverain sacrificateur que nous n'avons pas mentionné, c'est celui qui nous introduit dans le sanctuaire pour adorer, pour offrir le culte des vrais adorateurs. Et ceci aussi est essentiel pour que nous puissions être des témoins sur la terre. Il est important que nous entrions à sa suite dans le ciel pour adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, voilà quelques aspects de ce fait glorieux que Christ est dans la gloire et il y est là pour nous. Et nous pouvons le contempler à tout instant de notre vie par les yeux de la foi. Et cela nous amène à réaliser ce christianisme céleste qui est source de tant de bénédictions. Et malgré toute la puissance de l'ennemi, nous avons là un libre accès jusqu'à celui qui se trouve dans le ciel même, attendant le moment où il viendra chercher les siens. Alors le troisième fait dont nous avons parlé avec le chapitre 2, un fait unique dans les annales de l'histoire de l'humanité, c'est la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Après que Christ ait été glorifié, le Saint-Esprit, comme personne divine, est descendu sur la terre pour baptiser les quelques 120 personnes qui se trouvaient dans la chambre haute en un seul corps et les unir vitalement à la tête glorifiée dans le ciel. Il y a un lien intime entre la tête et ce corps qui est composé sur la terre aujourd'hui de tous les vrais croyants, où qu'ils soient. Et combien ceci est important. Nous voyons d'ailleurs que lorsque ce fait s'est produit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, du ciel, un son comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il est dit un peu plus loin, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues. Donc nous voyons la maison elle-même qui est concernée et chacun qui est rempli de l'Esprit Saint. Ceci est tout à fait remarquable, Dieu prend soin de nous décrire cet événement glorieux. Et le Saint-Esprit, d'ailleurs, partira avec l'Église lorsqu'elle sera enlevée lors de la venue du Seigneur. Il est intéressant de voir ce que le Seigneur dit du Saint-Esprit avant qu'il l'envoie dans l'Évangile de Jean en particulier. Au chapitre 14, il nous est dit qu'il est l'Esprit, il est le Consolateur. « Je prierai le Père, dit-il au verset 16, il vous donnera un autre Consolateur, l'Esprit de vérité, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. » Voilà, et un peu plus loin, nous voyons que cet Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Ce sont les paroles du Seigneur à travers les évangiles. Nous voyons d'ailleurs dans les différents passages, les chapitres 14, 15 et 16, que nous avons une allusion à la divine inspiration par le Saint-Esprit de tous les écrits du Nouveau Testament. En particulier, et ici, ce sont les évangiles. Il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Nous savons bien que les disciples n'étaient guère intelligents pour partager les pensées de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit les a habités, alors, ils ont tout compris, pour ainsi dire, de ce que le Seigneur leur avait enseigné tout au long de son ministère. Il y a eu là un déploiement de la puissance du Saint-Esprit dans le livre des Actes qui est évoqué dans cette expression du chapitre 15. Quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes qu'on a appelé les Actes du Saint-Esprit. Il y a eu là un déploiement de la puissance du Saint-Esprit extraordinaire, à tel point que lorsque le tableau de la vie pratique des saints est décrit, il est dit « ils étaient un cœur et une âme ». Et les assemblées, nous l'avons lu dans le chapitre 9, croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Et au chapitre 16, que nous est-il dit ? Toujours l'Esprit de vérité, remarquons, le Seigneur nous dit « et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui vont arriver. » Alors, conduire dans toute la vérité, c'est les enseignements des Épîtres. Et puis, il vous dira toutes les choses qui vont arriver, c'est l'Apocalypse. « Celui-là me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, nous occupe de Christ, de sa gloire, de ses intérêts, et rend vivante pour nous la parole de Dieu, et aussi compréhensible. Le rôle du Saint-Esprit est incalculable dans la vie du peuple de Dieu pour ce qui concerne la parenthèse de la grâce. Et dans la chrétienté, nous pouvons reconnaître qu'il est lié. Peut-être que nous sommes aussi en train de ne pas profiter de tout ce que le Saint-Esprit voudrait nous communiquer quant aux grâces et aux gloires de Christ. En tout cas, pour peu que nous nous laissions sonder par la parole et le Saint-Esprit, il voudrait toujours nous enrichir de quelques grâces nouvelles. Alors le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il habite l'assemblée, la maison de Dieu, la maison dans laquelle Dieu habite par son esprit et qui est composée de tous les croyants vivants, de la vie de Jésus. C'est pierre vivante dont nous parle Pierre lui-même. Et ceci est extrêmement important pour ce qui concerne et l'individu et l'assemblée. Pour l'individu, il est le temple du Saint-Esprit. Et là, l'Esprit est saint. Quand il s'agit de l'enseignement, c'est l'Esprit de vérité. quand il s'agit de la demeure que constituent nos corps, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous habite. Et à ce titre, nous sommes exhortés à ne pas l'attrister. Et dès l'instant où il est libre d'agir, où sa puissance s'exerce sur la vie divine en nous, eh bien, nous pouvons réaliser cet heureux état que nous avons sous forme d'exhortation dans l'Épître aux Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit », expression que nous retrouvons dans le Nouveau Testament une dizaine de fois. Et celle qui est très proche, c'est « être plein de l'Esprit », comme nous l'avons vu à propos d'Étienne, elle revient environ 5 fois. C'est un heureux état, souhaitable pour chacun de nous. Et nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, le livre des Galates, l'Épître aux Galates nous le dit, nous l'avons vu. Et il nous est dit aussi que ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Et alors, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et dès l'instant où le Saint-Esprit est libre d'agir, le fruit de l'Esprit peut être produit avec ses multiples aspects, ses fruits intérieurs que sont l'amour, la joie, la paix, les fruits visibles en relation avec nos frères et nos sœurs et tous ceux que nous pouvons approcher, nous les avons, et ce qui nous concerne, nous avons ensuite, et pour ce qui nous concerne individuellement, la tempérance. Longanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur. Et tempérance étant la maîtrise de soi que le Saint-Esprit, qui exerce un contrôle sur toute notre vie, produit en nous. Donc le rôle du Saint-Esprit dans l'individu est de toute importance. Et il n'a pas changé, le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans un temps de ruine. Ne l'oublions pas, c'est ce que nous avons lu rapidement dans la deuxième épître à Timothée, qui nous parle des temps de ruine. L'esprit n'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sobre bon sens ou de conseil. Et pour la fidélité individuelle, ceci est extrêmement précieux. Et nous ne pouvons garder, nous l'avons lu aussi, le bon dépôt qui nous a été confié, dont nous sommes les héritiers, que nous ne le voulions ou non, nous sommes les héritiers d'un dépôt de toute première valeur, et nous ne pouvons le garder que par le Saint-Esprit qui nous enrichit de ses trésors. Bien sûr, avec la parole toujours présente pour notre édification. Pour ce qui concerne la maison de Dieu, donc Dieu habite dans sa maison par son esprit. Cette maison est caractérisée par la sainteté, un trait fondamental. La sainteté sied à sa maison du fait que le Saint-Esprit est là et va agir pour le bien des saints. Et donc nous rendons culte par l'esprit. La maison de Dieu est le lieu où nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit, selon ce qu'il est dans sa nature, dans son essence, Dieu est esprit, et nous l'adorons par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans le culte, nous avons à être exercés pour découvrir le thème que le Saint-Esprit nous propose, et qu'ainsi, tout au long du déroulement d'un culte, nous nous attendions au Saint-Esprit. L'indication d'un cantique suppose que l'on est conduit par le Saint-Esprit. Et nous constatons par expérience quelquefois qu'un cantique peut élever le niveau de la louange ou la rabaisser s'il n'est pas dicté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est extrêmement sensible, aussi bien dans la vie d'un individu que dans la vie collective du peuple de Dieu. C'est une maison de prière aussi que la maison de Dieu. Et nous ne pouvons prier que par le Saint-Esprit. Parfois, nous ne savons pas, nous dit Romains 8, ce qu'il faut demander comme il convient. Mais le Saint-Esprit nous est en aide et il intercède par des soupirs inexprimables. que de bénédictions n'avons-nous pas? Un intercesseur divin sur la terre, un intercesseur divin dans le ciel. Les ressources du côté de Dieu sont parfaites et suffisantes. À nous de les saisir par la foi. Et nous verrons ce que Dieu peut faire dans notre vie individuelle, dans nos vies familiales, dans la vie de l'assemblée. Car n'oublions jamais que le Seigneur aime son assemblée. Il sait ce qu'elle lui a coûté. Et il lui a fourni tout ce qui lui est nécessaire pour son développement, pour sa croissance spirituelle. Et à ce titre, il y a pour chaque membre du corps de Christ un don de grâce particulier qui n'est rien d'autre qu'un don de l'Esprit. Mais il y a aussi des dons particuliers, spécifiques, que Dieu donne à son assemblée, Éphésiens 4, pour son édification, pour l'œuvre du service, pour le perfectionnement des saints. Voilà des expressions qui doivent retenir toute notre attention. Un don est un don de grâce, si bien que celui qui l'a reçu devrait être très humble, parce que c'est quelque chose, c'est ce qui lui est donné de la part de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un don? C'est une énergie de l'esprit, qui est pour le profit de l'ensemble. Alors le point qui doit nous exercer, sous l'angle du corps de Christ, nous proclamons à la table du Seigneur chaque dimanche l'unité du corps de Christ. Et nous voyons, nous embrassons dans nos cœurs tous les rachetés du Seigneur à travers le seul pain qui est sur la table. Il nous est dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi nous avons une seule espérance de notre appel. Eh bien, l'exercice pour nous, c'est de nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà le côté pratique de notre vie collective. Car l'unité de l'esprit suppose la vie collective. Et Dieu veut nous exercer pour que cette unité de l'esprit, eh bien, nous la réalisions pratiquement. Nous appliquons à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, dans un tel lieu où la présence du Seigneur est révérée, honorée, où le Saint-Esprit est libre d'agir, où la parole fait autorité quant à notre comportement, quant à ce que nous exprimons, alors la joie remplit tous les cœurs. Et nous pouvons faire l'expérience de cette première réunion où les disciples sont rassemblés en Jean 20. Les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. La présence du Seigneur rendue sensible à tous les cœurs par l'action puissante du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de nous arrêter sur ces points qui sont essentiels pour la vie du peuple de Dieu aujourd'hui. Alors le quatrième fait, nous terminons, c'est celui de cet événement que nous attendons tous, le retour du Seigneur pour enlever son Église. L'apôtre Paul a reçu cela comme une révélation de la part du Seigneur glorifié, comme les trois autres révélations qui lui ont été données. Et il nous décrit cet événement qui peut se produire d'un instant à l'autre et en un clin d'œil, comme nous le dit le chapitre 15, l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Alors, cet événement, il concerne ceux qui se sont endormis par Jésus, ceux qui se sont endormis dans la foi. Remarquons le langage de l'expression de l'Écriture, le terme qu'utilise le Saint-Esprit pour tous ceux qui ont eu la foi tout au long de leur vie terrestre. Eh bien, ce sont ceux qui se sont endormis par Jésus. Et nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Tous les bien-aimés, qui nous ont précédés, pour ainsi dire, à l'autre rive, tous ceux qui nous ont été chers et qui appartenaient au Seigneur, Eh bien, l'apôtre nous dit que c'est eux qui sont prioritaires. C'est eux qui vont être ressuscités. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, un cri de rassemblement, pour ainsi dire, à la lumière de Nombre 10, quand le peuple était rassemblé sous le son de la trompette, une voix d'archange, une voix surhumaine, et c'est le Seigneur lui-même qui vient chercher son Église. La trompette de Dieu qui retentit, le Seigneur descend du ciel, et les morts en Christ ressuscitent premièrement. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons à la résurrection de nos bien-aimés, à la première résurrection, car il y aura une deuxième résurrection, 1000 ans plus tard, pour ceux qui sont morts dans leur péché. Un fait que nous devons aussi souligner. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui est encore dans ses péchés aujourd'hui, dans cette salle ou dans nos familles. Eh bien, crions au Seigneur pour qu'il l'amène à la repentance envers Dieu et à la foi au Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu sauve le pécheur qui se repent. Et puis, et nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Cet événement ne sera pas visible de ceux qui resteront sur la terre. Et le Seigneur vient lui-même enlever celle qu'il s'est acquise à si grand prix. Et alors l'apôtre termine par ces paroles, combien douces pour notre cœur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Et l'Écriture se termine au chapitre 22 de l'Apocalypse par ce que le Saint-Esprit et l'Église déclarent, à savoir que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Et le Seigneur à trois reprises répond « Je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus.